entre Kapuscinski et Cappuccino.
Journaliste, auteur, grand voyageur, votre tour du monde de la littérature. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Entre Kapuscinski et Cappuccino, une édition un peu spéciale aujourd'hui consacrée à la littérature de jeunesse et plus particulièrement aux représentations de genre dans celle-ci. Un peu spéciale car l'émission a été réalisée avec une école primaire ici à Bruxelles, l'École Nouvelle. Nous avons eu le plaisir de rencontrer Nadine Strubel qui est bibliothécaire et qui anime différents ateliers dans des écoles ici à Bruxelles, ainsi que Thomas Wellratz qui est professeur à l'École Nouvelle, et enfin également Mathilde Lévesque qui est maîtresse de conférences en littérature à l'Université de Sorbonne Paris Nord, et justement spécialisée en littérature jeunesse. Cette édition a été réalisée avec Brice Agnès. On écoute tout de suite l'émission.
On est où là ?
C'est à l'école nouvelle.
Bonjour.
C'est une école primaire. Et en fait là on va rejoindre Nadine Strubel, qui anime aussi des ateliers bibliothèques.
Bonjour.
Bonjour.
Yes.
Ça te fait quoi, Brice, d'être de retour dans une école primaire ?
Ça faisait l'un des longtemps que j'y étais pas allé. C'est un peu l'enfance, le monde quand t'étais pas très grand, où tout était à une distance basse.
Bonjour. Vous êtes Nadine Strubel.
Nadine ?
Ouais.
Alors, moi je travaille ici dans la bibliothèque comme animatrice. Donc je m'adresse à un public entre 2,5 et 12 ans. Et mon travail ici, c'est de faire découvrir toutes sortes de livres aux enfants, de leur ouvrir l'esprit à des lectures qui soient un peu plus ouverte, diversifiée sur le monde. Et donc l'idée de l'atelier ici, c'était de vraiment faire rendre compte aux enfants qu'ils ont certaines habitudes de lecture qui sont en général des lectures très orientées. Orientées du côté de la culture blanche, hétéronormée. On se rend compte qu'effectivement la plupart des albums sont avec des héros masculins. Pas tellement des héros féminins, des héroïnes féminines plutôt. Voilà, qu'on ne parle pas tellement de la diversité des familles. Or, c'est vraiment un sujet de plus en plus courant. Et donc, l'idée, c'était de leur présenter d'autres livres qui présentent justement des héros et des héroïnes qui sont un peu différents de ce qu'ils ont l'habitude de voir, mais qui sont représentatifs d'une société dans laquelle on vit.
Alors, je vais vous demander à ceux et celles qui ont un personnage féminin comme personnage principal de le donner à Emimi.
Allez-y, si vous avez un personnage féminin, vous allez donner votre feuille à Emimi. D'accord ? Allez.
Ils sont combien dans ta classe ?
20. Tout juste.
Tu as combien de personnages féminins en main ?
1, 2, 3, 4.
Nous avons 5 personnages féminins. Comme personnage principal.
Ça veut dire qu'en fait, il y a plus de la moitié des enfants de la classe qui lisent en fait. Des BD, des mangas, des romans avec un personnage masculin, c'est tout. Et que. Enfin, moi, ça me dérange pas particulièrement, mais. Après, je trouve quand même ça bizarre. Quoi.
Parmi les personnages féminins que tu as en main, peux-tu me dire les caractéristiques de ces personnages ?
Mathilde Lévesque, maîtresse de conférences en littérature à l'Université Sorbonne Paris Nord.
On sait très, très bien que les livres pour enfants jouent un rôle très important dans la construction de l'enfant, dans son identité, dans son rapport au monde, dans son rapport aux autres. Les livres pour enfants, maintenant, sont promus et utilisés dans quasiment tous les lieux d'apprentissage et de socialisation des enfants depuis depuis le plus jeune âge, depuis quasiment leur naissance, que ce soit à l'école ou dans des lieux périscolaires ou bien dans des espaces publics, etc. Et donc à partir de ce moment-là, la question c'est de se demander quel rôle jouent les livres pour enfants dans ces constructions d'identité, dans ses rapports aux autres et dans les constructions et les modèles de genre. Ces questions, en même temps, ne sont pas complètement décorrélées de l'évolution des évolutions de la société et des consciences qui se sont éveillées aux questions d'égalité entre les femmes et les hommes, notamment, mais aussi au féminisme, mais aussi aux droits de groupes dits minoritaires, comme les homosexuels. Et en fait, c'est toutes ces questions qui, à la fois, sont essentielles dans la construction de l'enfant et qui se retrouvent dans la littérature de jeunesse, soit parce que la littérature de jeunesse s'empare de ces questions, soit parce qu'elle a contribué ou contribue à transmettre des stéréotypes et à laisser perdurer ces stéréotypes.
Parmi les personnages féminins que tu as en main, peux-tu me dire les caractéristiques de ces personnages?
Alors, il y en a une qui est intelligente, une qui est sage, une qui est énergique, une qui est très douce et courageuse, et une qui râle pour rien.
Douce parmi les caractéristiques, qu'est-ce qu'on dit de ces personnages masculins?
Fatiguée, qui n'est pas sérieuse, non, c'est pas du tout ce qu'on appelle. Joyeux. Il est calme, curieux, rigolo et un peu tête en l'air, sérieux, brutal.
Alors, quel est le point commun entre vos personnages féminins et masculins?
Moi, je trouve qu'il y a beaucoup dans les garçons, beaucoup rigolo, gaffeur, maladroit et tout ça, alors que souvent dans les femmes, il y a plus doux. Gentil.
Il ne s'agit pas, pour moi, d'envisager les livres pour enfants, que ce soit sur la question du genre ou sur toute autre question. Il ne s'agit pas pour moi de les envisager comme des outils d'apprentissage, comme des instruments au service de l'éducation de l'enfant, de les envisager comme des œuvres littéraires, comme des objets esthétiques, qui vont créer chez l'enfant qui les lit un éveil aux mots, un éveil aux récits, un éveil aux images, un éveil aux sons, et une émotion esthétique et littéraire. Et dans cette émotion esthétique et littéraire, bien sûr, il y a aussi des idées qui sont transmises par des auteurs et des illustrateurs et ou des éditeurs. Ou des traducteurs aussi, parce qu'il y a les choix des traducteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Et c'est cette double identité, en quelque sorte, qui fait la richesse de la littérature de jeunesse, à savoir ce savant dosage et ce savant mélange d'apprentissage et de divertissement, qu'effectivement, l'enfant se construit dans des représentations, dans des modèles qui peuvent lui être donnés, dans des questions qui peuvent se poser pour l'enfant ou qu'on peut poser avec lui. Et c'est plutôt dans cette démarche-là, pas vraiment l'idée d'instrumentaliser la littérature de jeunesse ou les livres pour enfants, parce que là je pense qu'on se tromperait beaucoup, mais au contraire de le prendre avant tout comme de la littérature, mais de la littérature qui dit quelque chose à l'enfant, de lui, de son entourage, de la société dans laquelle il vit.
Une bonne histoire, c'est des héros et l'entraide et plein d'équipes comme ça. Et
faut pas dire aux enfants qu'il n'y a aucun problème dans la vie. Faut quand même leur dire, voilà, il y a des moments où ça va pas.
Et moi, je trouve qu'une bonne histoire, c'est une histoire qui a vraiment beaucoup d'imagination, ou bien au moins un peu, et où il se passe quelque chose, où il y a un mystère, des choses comme ça.
Pour moi, une bonne histoire, c'est, souvent, c'est une histoire où il y a des gens qui se rebellent. Y en a une des filles qui se rebelle que j'ai retenue. C'est avant, on pouvait pas, les filles pouvaient pas faire les courses en vélo, par exemple. Et elle a participé à une grande course en vélo et elle est arrivée cinquième. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut arriver à faire tout et qu'il n'y a pas que les hommes qui peuvent faire des sports et que les filles qui peuvent faire un certain autre sport.
Tout le monde a le droit de tout faire. Et donc, par exemple, les filles, elles peuvent aimer le foot et les garçons peuvent aimer la danse classique.
Plus récemment, ce qu'on va trouver dans les productions pour enfants, où il ne s'agit pas seulement d'avoir des... Parce qu'on a beaucoup parlé de modèles féminins, par exemple. Mais dans les livres plus récents, on voit apparaître des questions sur la masculinité. Ça, je crois que c'est une question aussi très intéressante. Parce que on accepte, je pense, sans problème... des modèles de filles fortes, des modèles de garçons sensibles, de garçons fragiles. C'est peut-être déjà moins accepté par la société, et de les voir dans des livres pour enfants, je crois que c'est très important aussi pour les lecteurs, que ce soit des garçons ou des filles d'ailleurs, hein, que tout le monde puisse être représenté. Et puis, dans les romans pour adolescents, on voit apparaître vraiment maintenant ce qu'on appelle parfois l'écoféminisme, c'est-à-dire de lier les questions... d'égalité homme-femme, de la place des femmes, à des questions d'avenir de la planète, questions de la nature. Et ça, je trouve qu'on a des tendances qui sont très intéressantes, qui apparaissent depuis ces dernières années dans l'édition pour la jeunesse.
Alors, j'ai fait des formations déjà sur les stéréotypes de genre, sur les personnes racisées dans les albums jeunesse. Et alors, je lis évidemment énormément. Et oui, tous les livres que vous voyez là sont pour moi de grandes découvertes. Je ne sais pas si tu veux que je t'en présente un en particulier. Bon, par exemple, ici, le Zizi des mots, que je trouve être un... C'est plutôt un album documentaire qui met en évidence plutôt de à quoi est associé en général le nom féminin en comparaison avec le nom masculin. Alors, je te le montre. Donc, c'est un livre qui a été écrit par Elisabeth Brami. Alors, par exemple, quand on parle d'un chauffeur au féminin, au masculin, on voit un homme près d'une voiture, et en fait, au féminin, une chauffeuse est un sofa. Un charentais est un homme de Charente, une paire de charentaises est une pantoufle. Un marinier, une marinière. Donc voilà, ce livre va retracer le masculin et le féminin des mots, et on peut effectivement constater qu'à partir du moment où on est du côté du féminin, on est dans l'objet ou dans la nourriture. En tout cas, il n'y a pas une personne derrière le féminin. Et ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre société depuis très longtemps. Bon, on s'y est habitué et on ne s'est plus trop penché. Donc ce genre de livre-là permet d'un petit peu porter un autre regard sur notre vocabulaire et sur tout ce qui forge les stéréotypes.
Thomas Wellratz, professeur à l'École Nouvelle.
Ouais, ça me paraissait important d'avoir des livres dans la classe. Enfin, même indispensable, en fait. Indispensable.
C'est la bibliothèque, c'est le concam où tu peux lire, tu peux parler, tu peux acheter.
Alors, en général, il n'y a pas vraiment de modalité, c'est-à-dire que s'ils ont fini un travail, etc., ou s'ils ont un moment de temps libre, ils peuvent aller s'installer à la bibliothèque. Et alors, on essaie d'avoir une période par semaine aussi, où ils ont un moment de lecture plaisir, quoi. Lecture libre, où ils peuvent choisir ce qu'ils veulent, un roman... une bande dessinée, un magazine. Ça doit faire partie intégrante d'une classe, je trouve. Et puis j'essaye de faire en sorte que les élèves respectent la bibliothèque aussi, et que ce soit un lieu agréable. Et...
T'as du temps pas trop parlé, hein. Mais genre, tu veux pas. Alors, tu peux pas parler fort.
Là-bas, c'est plutôt Spirou et tout. Et là, c'est.
Et documentaire aussi.
Ouais, documentaire.
Mais ça s'est fait au fur et à mesure des années, en fait. On commence par quelques BD, quelques romans, et puis petit à petit, ça s'étoffe. On va chez pêle-mêle de temps en temps, ou alors des parents nous donnent des livres, ou des copains. Ça fait partie des apprentissages aussi, la lecture, apprendre à distinguer un roman d'un livre documentaire, etc. Donc s'ils ne peuvent pas manipuler le livre et s'ils ne peuvent pas lire en classe, du coup, voilà, ça devient très, très abstrait, quoi. Ici, dans l'école, ça s'instaure quand même pas mal. Dans les classes, il y a des bibliothèques, mais c'est vrai que ce n'est pas le cas dans toutes les écoles.
Au départ, ce sont des maisons d'édition qu'on pourrait qualifier de militantes qui se sont emparées de ces questions, comme Talent Haut, par exemple, hein, qui a fait aussi un travail assez considérable sur ces questions. Maintenant, on pourrait dire que je pense qu'il y a une prise de conscience collective, que toutes les maisons d'édition, je pense, et les éditeurs sont conscients des enjeux qui sont posés. Et on a vu vraiment apparaître de plus en plus de livres pour enfants, soit qui renversent les stéréotypes, donc ils vont casser le schéma classique du prince qui va délivrer la princesse pour proposer des princesses courageuses qui vont soit délivrer un prince ou délivrer une princesse, ou bien des livres qui vont s'emparer de la question de l'homoparentalité ou des différents types de familles. Et c'est des... De plus en plus aussi, on voit apparaître ces figures comme ne posant plus de problème. Alors, je pense à un cas très, peut-être très célèbre, en tout cas, un des livres pour enfants qui a le plus de succès peut-être en ce moment, qui est la série de Mortel Adèle, où Adèle, donc ce personnage de petite fille déjà forte, qui n'est pas du tout, qui dénonce les stéréotypes féminins du rose et des paillettes, elle a aussi un oncle qui a un amoureux. Donc, mais ça n'est pas thématisé comme problème en disant, bah voilà, on va parler de l'homosexualité. Non, elle a simplement un oncle qui a un amoureux, et ça fait partie des personnages sans que ça pose quelque problème que ce soit. Donc c'est quelque chose, je pense, qui maintenant est assez admis et courant dans les productions pour la jeunesse. Ce qui l'est peut-être un petit peu moins, ce sont des questions qui intéressent la recherche, hein, dans les études de genre, les gender studies, qui maintenant en France, comme dans d'autres pays, s'intéressent à des questions plus liées à ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire non seulement s'intéresser au genre, mais aussi à d'autres paramètres, tels que les inégalités de classe, les inégalités d'un terme qui fait polémique, mais qu'on appelle la race chez les sociologues, pas les races, mais la race. Voilà, donc d'essayer de croiser ces questions-là et d'aller du côté d'une autre diversité. Là, on sent que les débats sont encore crispés et le consensus est beaucoup moins présent, je pense.
Les livres que vous voyez ici, qui sont plutôt anciens. Lousse.
Les culottés. Non, ça va encore.
Est-ce que tu peux regarder la date de publication de ce livre? En fait, ce que moi je défends et ce que je retrouve en fait dans pas mal de livres aujourd'hui, c'est surtout l'idée d'une liberté d'être ce qu'on a envie d'être, quel que soit notre genre. Et donc là, oui, c'est chouette, on peut aujourd'hui trouver des livres qui vont vers ça. Moi, j'aurais rêvé d'avoir dans ma jeunesse des livres qui me parlent de ces questions-là. Par contre, ce genre d'atelier va simplement leur permettre de s'ouvrir un petit peu à autre chose, de découvrir en tout cas qu'il existe des choses un peu différentes, que ce soit dans la lecture ou dans notre société. Ça permet après de parler de choses de la société. Et donc, je ne mets pas... Je n'aime pas trop la censure par rapport à ça, mais évidemment, tout ce qui est là, ce sont des albums qui sont adaptés aux enfants. Là, par exemple, le mari de mon frère, qui est un manga qui est plus... là, quelqu'un l'a pris. Bah oui, c'est Thomas. C'est pour un peu plus de 12-13 ans quand on commence à se poser des questions par rapport à sa sexualité. Mais par exemple, si on parle d'homosexualité, on a le petit album Elle, qui de manière très, très douce va simplement parler d'amour et d'une petite fille qui à un moment donné va être amoureuse d'une autre petite fille. Voilà, il n'y a rien de choquant là-dedans. Maintenant, moi, ces livres, ils sont à disposition comme un livre des Schtroumpfs ou de Martine peut l'être dans la bibliothèque. Et après, c'est dans les lectures que je vais en faire qu'à un moment donné, il y aura une envie d'aller vers ce livre ou pas. Mais ça, je laisse l'enfant choisir et aller vers ce qu'il a envie.
On a parfois lu dans les médias des polémiques sur des contes, par exemple, sur La Belle au bois dormant, disant que c'est sexiste, c'est un viol, je ne sais pas quoi. Bon, très bien. Il ne s'agirait pas non plus de faire une lecture anachronique, au sens où il y a eu des productions à un moment, mais surtout que ces versions stéréotypées, les contes, c'est quelque chose, c'est une littérature mouvante, c'est une littérature vivante, et que ces versions stéréotypées sont parfois plus le résultat de ce que nous avons en tête, notamment les adaptations qui ont pu en être faites par les studios Disney ou par d'autres adaptations qui, elles, sont vraiment, pour le coup, prises dans des problématiques, dans une société très, très sexiste, très normée. En revanche, ce qu'il est très intéressant de faire, y compris avec des enfants, c'est de discuter de ces questions, de savoir pourquoi nous avons telle ou telle interprétation sur un conte, par exemple, et d'aller lire ces contes de près, déjà, pour voir ce qu'il en est des textes, des différentes versions, et peut-être de remonter un petit peu plus avant et plus loin dans le temps aussi, pour s'apercevoir que tout n'est pas si stéréotypé, peut-être, qu'il y a aussi d'autres versions qui existent, et qu'il y a aussi des personnages féminins, par exemple, qui sont très forts, que dans tous les contes qui existent, savoir un petit peu d'aller en retrouver peut-être d'autres qui sont anciens, mais qui sont tout à fait intéressants. Donc je pense que c'est un excellent support, au contraire, pour se poser des questions avec des enfants, y compris avec des plus jeunes, plutôt que de les oublier complètement. Je suis pas du tout pour effacer et oublier les choses. Les choses qui sont vraiment qu'on peut oublier, et elles s'oublient toutes seules. Vous parlez de la littérature coloniale tout à l'heure. Il y a des tas de choses dont les reliefs font dresser les cheveux sur la tête tant le racisme est extrêmement violent. Ça a été finalement oublié. Donc, voilà.
Ben, on va aller interroger des gens pour leur poser des questions, quoi.
Qu'est-ce que je lisais comme livre quand j'étais petit ? Je lisais Les Petites Madames et Les Petits Messieurs. Je sais pas si ça dit rien. Ça vous dit quelque chose ?
Monsieur et Madame.
Oui, Les Petites Madames et Les Petits Messieurs, Bob et Bobette. Je lisais des bandes dessinées, Tintin.
Quel livre vous lisez quand vous étiez petit ?
Ah, moi, j'aimais beaucoup la série des Toto.
Alors moi, je lisais beaucoup de BD, en plus de la BD belge. J'étais abonnée au magazine Spirou, que je recevais toutes les semaines, et maintenant c'est ma petite sœur qui les a, donc je les lis toujours. Quand j'étais adolescente, évidemment, je suis passée au manga, parce que c'est un peu, c'était fort à la mode. Et maintenant, en plus, je relis tous les romans de quand j'étais petite et de quand j'étais ado, parce que c'est chouette.
Astérix aussi. Tintin, il y a eu Lucky Luke aussi. On a eu Lucky Luke aussi, et puis un petit peu plus tard, peut-être Gaston Lagaffe.
On n'avait pas de quoi s'amuser comme livre. Voilà, c'était uniquement des livres d'école. Et parfois, on avait aussi des journaux, non, des magazines. Il y avait un qui s'appelait Le Kwaku. C'est ce qu'on lisait. Et quand j'ai grandi, j'étais un peu plus grand, j'ai commencé à lire les journaux sur le foot, comme le 11 mondial, France Football.
Et est-ce que maintenant vous lisez un livre particulier ou des livres particuliers ?
Je lis des livres, mais je t'avouerai que ces derniers temps, j'en lis plus, parce que le travail prend le dessus.
Pour l'instant, non, je suis beaucoup plus sur Internet. Donc je vais beaucoup plus sur Internet. Et puis, de temps en temps, quand je vais à la bibliothèque, là, je peux lire... Voilà, je peux lire des magazines sur la science, sur la vie.
Là, je suis plutôt sur les biographies. Je viens de finir celle d'Elisabeth Ier. Et là, je suis sur Marie-Antoinette.
Non, maintenant, je n'ai pas fort le temps. Et tout ce qu'on voit déjà à la télé, on a toutes les nouvelles et tout ça, je préfère regarder sur le net, surfer sur le net, que de lire des bouquins.
Est-ce que vous avez un livre maintenant que vous lisez ?
Là, pour le moment, oui. Alors, ça s'appelle « Mémé dans les orties ».
Non, là, je lis plus trop. Je préfère regarder des séries maintenant.
C'est l'histoire d'un chat noir qui habite dans une maison blanche. Et un chat blanc qui habite dans une maison noire. Et donc, un jour, ils veulent se rencontrer. Sauf que le problème, c'est que dès que chat noir va chez chat blanc, bah, il disparaît. Et dès que chat blanc va chez chat noir, bah, il disparaît. Mais c'est pratique pour se cacher, mais pour jouer, c'est pas normal. Enfin, c'est pas facile. Et en fait, à la fin, ils essayent de trouver un autre endroit pour jouer, pour se rencontrer, pour ne pas être invisible partout. Et à la fin, ils trouvent un endroit plein de couleurs, donc ils peuvent vivre comme ça.